Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Félix Tshisekedi décide d'un allègement progressif et graduel de l'état de siège au Nord Kivu à Ituri. Cette annonce a été faite par le chef de l'État au cours d'une allocution radio-télévisée jeudi 12 octobre dernier. Après 2 ans et 4 mois du régime d'exception dans ces deux provinces du nord-est de la RDC, Félix Tshisekedi dit avoir pris la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale. Certains acteurs sociopolitiques du Nord Kivu et de l'Ituri, interrogés vendredi 13 octobre par Radio Kapi, se sont opposés à la requalification de l'état de siège dans ces provinces, tel qu'annoncé la veille par le président de la République. De manière générale, les acteurs du Nord Kivu se posent des questions sur la constitutionnalité de cette option de requalification de l'état de siège. Ces derniers pensent que la mise en pratique de cette mesure va créer la confusion au niveau de l'administration locale. Et ceux de l'Ituri estiment que cette requalification ne répond pas aux attentes de la population de cette province où les groupes armés sont actifs depuis 2017. Que pensez-vous de la décision du chef de l'État sur la levée partielle de l'état de siège? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Jean-Claude Tshilimba, il est professeur de droit, il est député provincial et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, professeur Jean-Claude Tshilimba. Allô, professeur Jean-Claude Tshilimba, est-ce que vous êtes là? Voilà, il n'est pas encore là. Et Jackson Aoussé, député national, élu du territoire d'Irumu, province de l'Ituri, il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Bonsoir, Jackson Aoussé.
Bonsoir Guy Massé, bonsoir à mes amis co-débatteurs.
Et Augustin Mouessi, professeur des sciences politiques à l'université de Goma, Unigom en sigle, chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte et analyse des plaidoyers pour la valorisation des résultats des recherches. Bonsoir Augustin, professeur Augustin Mouessi.
Oui, bonsoir Guy Massé, bonsoir à tous les auditeurs à Radio Capi et à tous les co-débatteurs avec qui nous allons débattre de cette question.
Merci, bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
J'ai pris la ferme résolution de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation, inconsidéré les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime des restrictions de l'état de siège avec des meilleures garanties des poursuites du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État au cours des messages à la Nation jeudi dernier sur la chaîne nationale RTNC. Après 2 ans et 4 mois du régime d'exception dans ces deux provinces du nord-est de la RDC, Félix Tshisekedi dit avoir pris la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé des populations à une vie civile et citoyenne normale. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
J'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune.
Jean-Claude Tshilimba, professeur de droit, vous êtes député provincial et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Est-ce que vous êtes là?
Je suis là, mais le réseau est ici.
Et comment vous expliquez cette décision du chef de l'État d'élever partiellement l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu?
D'abord, c'est une décision qui relève.
Voilà. Donc, il se pose le problème du réseau. Allô, professeur, ça va?
Ça ne va pas aller.
On va poser plutôt la question au député Jackson Aoussé. Jackson Aoussé, est-ce que vous êtes là?
Je suis présent.
Voilà, je rappelle que vous êtes député national élu du territoire du Rumu, province de l'Ituri. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Et comment vous réagissez à cette décision du chef de l'État d'élever partiellement l'état de siège dans votre province de l'Ituri et au nord de vous?
Merci beaucoup pour votre invitation, monsieur Guy Maté. Sincèrement, on avait suivi avec beaucoup d'attention cette communication des chefs de l'État, parce que l'état de siège, depuis sa proclamation le 3 mai 2021, en Ituri et au Nord Kivu, nous préoccupe, en fait. Nous préoccupe parce que nous, en tant que députés d'abord, en tant que députés, 6 mois après la proclamation de l'état de siège, on avait déjà commencé à faire des rapports, on avait déjà commencé à alerter les autorités, notamment les chefs de l'État, lui demanda tout simplement que cette mesure soit levée. Parce que 6 mois après, celle-ci avait déjà commencé à montrer ses limites. Ce n'était que des propositions, ce n'était que des orientations de la part des caucus des députés nationaux de l'Ituri et de Nord Kivu réunis, et tout cela n'avait jamais été répondu ou exaucé. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de le débattre. Le chef de l'État a pris parole pour s'adresser à la nation, faisant suite tout de suite de l'atterrissage de la table ronde. La table ronde qui s'était organisée à Kinshasa, où toutes les forces vives, politiques ou sociales de l'Ituri et de Nord Kivu étaient présentes. À cette table ronde, messieurs les journalistes, il y avait 3 thématiques, soit la levée, le maintien ou la requalification de l'état de siège. Messieurs les journalistes, je vous dirais que l'équipe ou le groupe Carrefour qui a travaillé sur la thématique requalification de l'état de siège avait donné tout de suite sa position en disant qu'il n'y avait aucune disposition constitutionnelle ou légale qui puisse leur permettre d'argumenter dans le sens de vouloir requalifier l'état de siège. Et puis, effectivement, vous pouvez lire tous les articles de la Constitution, vous ne trouverez nulle part la possibilité, même moindre, où on peut en arriver à la requalification de l'état de siège. L'état de siège a 2 possibilités. Soit vous le maintenez, ou soit vous l'élevez tout de suite. C'est cela, malheureusement. Ce sont des mesures exceptionnelles, hein. Ce sont des contextes exceptionnels. On en a 3. On a l'état de siège, on a l'état d'urgence, on a la déclaration de guerre. Ce sont des mesures exceptionnelles de gestion de la République qui est très encadrée par la Constitution. Le professeur en droit, ils sont partout, ils sont en train de nous suivre. Sincèrement, ici, cet aménagement que le chef de l'État propose, nous avons la difficulté de localiser cet aménagement dans la Constitution. Cette même difficulté s'est posée le jour où nous étions à la table ronde. C'est pour cette raison
Jusque-là, vous ne nous dites pas quelles sont vos attentes, quelles étaient vos attentes vis-à-vis du chef de l'État. Qu'est-ce que vous auriez, n'est-ce pas, souhaité qu'il les prenne comme décision?
La levée de l'état de siège.
La levée totale.
Oui, la levée totale. Il n'y en a que 2 possibilités, monsieur Guy Maté. Je viens de vous dire, c'est une situation. La gestion exceptionnelle de la République est très encadrée par la Constitution. Il n'y a pas de marche de manœuvre. Le président de la République, nous, le Parlement, le gouvernement, on n'a pas de marge de manœuvre. Soit nous maintenons hors, dans le contexte actuel, le maintien n'a pas d'argument. Il n'y a aucun argument sérieux, aucun argument pertinent qui peut justifier qu'on puisse maintenir l'état de siège. L'état d'abord, il est très largement passé, on est à 2 années et demie de l'état de siège, le contexte de la situation sécuritaire, c'est-à-dire Nord Kivu, en Ituri, se sont aggravés. Les assemblées provinciales aujourd'hui, ils sont élus, et ils étaient élus par la population. Ils doivent aller aux élections. En principe, c'est cette assemblée qui doit faire la remise de prime avec l'assemblée qui va entrer à la suite des élections de décembre. Et donc, il n'y a pas un argument qui peut justifier qu'on puisse maintenir. Alors, il y a tous les arguments possibles pour justifier qu'on puisse tout simplement les lever.
Vous dites qu'il n'y a pas d'argument pour maintenir l'état des sièges. Mais l'activisme des groupes armés, n'est-ce pas un argument?
Lequel argument?
L'activisme des groupes armés. N'est-ce pas un argument pour continuer à maintenir l'état des sièges?
Non, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument parce que l'état des sièges était proclamé pour en mettre fin,
pour abdiquer effectivement comme fléau cet activisme. Aujourd'hui, la courbe de cet activisme n'est pas descendante, mais plutôt ascendante. La courbe a pris la flèche. Et comme thérapie, parce que l'état de siège, c'est comme une thérapie, en fait. Et à partir du moment où vous administrez une thérapie à un malade, et que cette thérapie ne donne pas le résultat escompté, monsieur Guy, il faut continuer à maintenir le malade sous cette thérapie qui aggrave sa maladie. Moi, je pense que le docteur ne peut que changer cette thérapie. Alors que moi, je pense que l'argument de dire que l'activisme de groupe, la résistance de l'activisme de groupe armé n'est pas un argument fertile pour maintenir l'état de siège. Ça ne passe pas dans l'opinion de la population. Ça ne passe pas. Sinon, alors, si tel est le cas, il faut alors qu'on se dise, ok, ces deux provinces, désormais, ne vont être gérées que par les mesures exceptionnelles, ne vont être gérées que par les militaires, alors internellement. Il faut qu'on arrive à dire ça. Mais si ce n'est pas ça le cas, donc moi je pense que franchement, comme le texte, comme la constitution, même l'ordonnance proclamant l'état de siège, dans son article 3, nous dit ceci, permettez-moi que je puisse lire, les fonctions des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des autorités, des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l'expiration des délais prévus pour l'état de siège. Alors, on ne veut pas dire, après état de siège, qu'on puisse mettre fin aux fonctions, n'est-ce pas, des administrateurs du territoire, des bourgmestres ou bien des maires de ville, militaires ou policiers. Ça passe pas. Même l'ordonnance ne le permet pas. Ça passe pas. Donc, moi, je pense que cette communication ne trouve pas de soubassement dans des textes. Peut-être il faut qu'on saisisse tout simplement la Cour constitutionnelle, parce que effectivement l'article 145 de la Constitution demande que si dérapage il y en a, qu'on saisisse la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse nous donner sa part de lecture, sincèrement.
Voilà, le chef de l'État, c'est lui qui a pris cette décision, et c'est la personne la mieux informée, n'est-ce pas, en matière de sécurité dans les pays. Et lorsqu'il prend la décision de requalifier l'état de siège, lorsqu'il prend la décision de ne pas lever totalement l'état de siège, vous pensez qu'il n'a pas de raisons, n'est-ce pas, qui pourraient expliquer cette décision-là?
Très bien, c'est une très bonne question. Les raisons peuvent être là, comme vous venez de dire. C'est un de nous qui soit mieux placé pour apprécier le contexte sécuritaire du pays, mais toujours là, l'article 69 de la Constitution, alinéa D, impose tout simplement au chef de l'État, il lui donne une mission, cet article, cet alinéa lui donne une mission spécifique de veiller au respect de la Constitution. C'est ça. Donc, cette bonne volonté, cette appréciation, cette information peuvent être là, mais ayant cette mission du respect, cette mission expresse du respect de la Constitution, le chef de l'État, franchement, ne peut pas déroger à ça. Il ne peut pas déroger à ça parce que la mission, elle lui est expresse. C'est pour cette raison que nous disons, sincèrement, l'aménagement de l'état de siège énerve tous les textes, à commencer par la Constitution et même les ordonnances qui s'en rapportent. Et donc, il va falloir que, heureusement que les décisions ne sont pas encore prises, les ordonnances ne sont pas encore prises pour, je ne sais pas moi, abroger ou bien aménager. Il va falloir qu'on les requalifie avant qu'on en arrive aux prises des actes.
Merci Augustin Mouessi. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et de Goma à Sigle, chercheur à Research Connect d'IACI, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Quelle est votre lecture par rapport à la décision du chef de l'État de requalifier l'état de siège?
Oui, ma lecture est simple, c'est qu'en fait, comme l'a dit l'intervenant qui m'a précédé, il s'agit ici d'une tentative de réponse à la demande de la population des provinces concernées par l'état de siège, laquelle demande a consisté, après avoir constaté l'inefficacité de cette politique publique controversée, a consisté donc à tout simplement exiger à l'autorité, au président de la République, de pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette mesure. Mais aussi, le deuxième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, le Congo est dans une période préélectorale. Et comme le chef de l'État lui-même l'a dit dans sa communication, il va falloir permettre aux acteurs politiques, aux compétiteurs politiques, de pouvoir s'émouvoir, de pouvoir organiser des manifestations. Et justement, le contexte électoral ne requiert en fait que effectivement les gens, les acteurs politiques puissent organiser des réunions et des manifestations publiques et battre campagne sans beaucoup de restrictions. Mais aussi, toujours dans ce contexte préélectoral, je suis tenté de dire que cette décision du chef de l'État ou cette annonce du chef de l'État, c'est aussi une stratégie de séduction de cette population de l'Est du pays, en fait, mais qui est quand même basée aussi sur le fait que il y a eu effectivement certaines réalisations que les autorités attribuent à l'état de siège, même si aux yeux de l'opinion l'état de siège semble avoir présenté plus de faiblesses que de forces. Et par rapport justement à cette annonce, il y a lieu alors de se demander comment va effectivement fonctionner l'administration, qui sera des côtés caractérisée par des autorités qui ont été nommées par le chef de l'État par une ordonnance de certaines entités qui sont considérées comme justement connaissant une accalmie, mais aussi on va avoir à la tête des provinces des militaires. Et là aussi, on peut se poser la question de savoir quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour dire que telle entité connaît déjà une accalmie et que donc elle mérite qu'on y installe à nouveau une autorité civile. Ça va causer, à mon avis, ça pose un problème, quoi. Donc on a le droit de s'interroger par rapport à ces critères. Encore que jusque là, l'annonce que le chef de l'État a faite ne semble pas déjà consacrer justement cette levée partielle de la mesure, puisque, comme vous le savez, l'état de siège avait été instauré par une ordonnance. Il y a une ordonnance qui instituait l'état de siège, mais aussi une autre ordonnance qui portait sur les mesures d'application. Et donc, une ordonnance ne peut pas être directement cassée par un message à la nation, même s'il vient du chef de l'État, en fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore un problème de ce côté-là, et on attend voir quel sera peut-être le texte juridique ou bien carrément une ordonnance qui va préciser quelles seront les entités concernées, mais aussi comment les entités territoriales décentralisées, même déconcentrées, vont pouvoir cohabiter avec n'est-ce pas des autorités militaires au niveau de province et même au niveau d'autres entités territoriales décentralisées ou même déconcentrées qui n'auront pas été jugées, sécurisées pour voir justement la réinstallation des autorités civiles. Et donc voilà une série de problèmes que pose en fait cette annonce du chef de l'État, qui reste encore une annonce puisque jusque là il n'y a pas vraiment un texte qui puisse confirmer que cela va se faire et dire plus sur les modalités opérationnelles de cette levée progressive et graduelle de cette mesure en fait transitoire qu'a annoncé le chef de l'État.
Alors, ne faudrait-il pas un acte ministériel comme un arrêté du ministre de l'Intérieur pour organiser cette cohabitation entre les militaires et les civils, un arrêté, n'est-ce pas, qui précise les rôles de chaque dirigeant à tous les niveaux pour éviter cette confusion que vous semblez redouter, cette confusion au niveau des institutions provinciales, au niveau de l'administration?
De manière très claire, à mon avis, il faudrait effectivement qu'il y ait texte juridique, soit du genre une ordonnance du président de la République, soit un arrêté justement du ministre de l'Intérieur, du vice-premier ministre de l'Intérieur, pour pouvoir clarifier des choses, pour en fait faire en sorte que cette gouvernance atypique qui va être mise en place puisse ne pas connaître beaucoup de dysfonctionnements et des ratés qui seraient préjudiciables justement à la stabilité et à la bonne administration de ces entités qui seront concernées, qui sont concernées par cette annonce du chef de l'État. Et qui est en fait une nouvelle, je dirais une nouvelle expérience que ces provinces vont essayer d'expérimenter à la suite justement de ces processus de sortie progressive de l'état de siège, de cette politique de l'état de siège.
Merci, on me signale que le professeur Tshilumbay est là. Professeur Jean-Claude Tshilumbay, est-ce que vous êtes là?
Je suis là,
Cheikh. Voilà, je vous ai posé la question de savoir comment vous vous expliquez à votre niveau cette décision du chef de l'État d'élever partiellement l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu.
D'abord sur la forme, il faut noter que l'état de siège tel que décrété, c'est une mesure administrative parce que prise par le chef de l'État en cette qualité, d'autorité administrative conformément à notre constitution. Cela étant, l'état de siège n'est pas décrété par voie d'ordonnance. La constitution est bien claire. Il proclame l'état de siège. Elle ne détermine pas la modalité écrite. L'ordonnance est une mesure d'application de l'état de siège ainsi proclamé. Alors, déjà à ce niveau-là, dire que la levée de l'état de siège devrait se faire par voie d'ordonnance n'est déjà pas conforme à la forme de son institution. Il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. L'état de siège a été proclamé.
Et dans ces cas, professeur, parce qu'il faut nous aider, parce que l'on redoute une certaine confusion, n'est-ce pas, par rapport au fonctionnement des institutions provinciales, par rapport à l'administration. Et dans ces cas-là, parce que si, comme vous dites, qu'on n'a pas besoin d'une ordonnance à cet effet, il faudrait quoi? Il faudrait un arrêté ministériel?
D'abord, il faut qu'on y aille. J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'élever l'état de siège par ordonnance parce que l'état de siège n'est pas décrété par voie d'ordonnance. L'état de siège est proclamé. C'est ça le terme de la Constitution. L'ordonnance prise par le chef de l'État venait plutôt mettre en place les modalités d'application de l'état d'urgence parce que c'est une mesure administrative. Les restrictions de liberté et les modalités pratiques qu'instituait cette ordonnance ne sont pas toutes décrites par la Constitution. Ce sont des mesures également administratives prises par le chef d'État comme autorité administrative cette fois-là. Il en va donc de bon droit que la levée de l'état d'urgence peut être progressive. La Constitution ne l'interdit pas. Tout ce que la loi n'interdit pas et autorisé. C'est ça le droit positif chez nous ici au Congo. Donc, dire que la Constitution ne prévoit que la levée, le décret et la levée, c'est faux. Le pouvoir administratif ainsi reconnu au chef de l'État peuvent lui permettre de lever progressivement. Ça signifie, par exemple, d'assouplir le régime en libéralisant certaines libertés que l'état de siège restreignait, soit en élargissant les mesures de son application, parce que c'est une mesure administrative. Vous verrez que le législateur, le Parlement, n'intervient dans ce chapitre que comme régulateur, parce que l'état de siège lui-même est supposé avoir une loi générale qui codifie son fonctionnement. Lorsque le chef de l'État décrétait l'état de siège, à cette époque-là, la loi n'existait pas encore. Donc, il faut que l'on se comprenne sur ce fait-là que de venir alléguer une violation de la Constitution qui n'existe pas. Maintenant, dans le fond, s'il faut dire que le chef d'État a levé l'état de siège, s'il faut dire que le chef d'État lève progressivement, qu'est-ce qui l'y amène, qu'est-ce qui l'amène à lever cette mesure? D'abord, il faut dire qu'il y a eu ces concertations, cette table ronde, pour évaluer avec les acteurs sociétaux les bien fondés de lever ou de maintenir l'état de siège. Cela étant, les points de vue n'ont pas été convergents. Les gens ont postulé de plusieurs manières, entre ceux qui pensaient qu'il fallait tout de suite lever l'état de siège, entre ceux qui pensaient, comme dans l'Ituri en particulier, que l'état de siège avait servi à quelque chose. Plus précisément, dans ce sens que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée, les gens ont pu faire des déplacements par route de Arou à Kisangani, sans que cela ne leur coûte la vie, absolument comme c'était le cas avant l'état de siège. La contrebande, la fraude minière et tout ce trafic lié qui alimentait le trafic d'armes ont été systématiquement réduits et cela a été révélé notamment par le fait que le gouvernement provincial a pu faire beaucoup de recettes en cette période par un contrôle tout à fait sérieux de finances publiques et les réalisations même en faveur de la population en termes de construction d'infrastructures. On révélait tout cela.
Voilà, donc, vous avez dit que lors de la table ronde, n'est-ce pas, il y avait pas les points de vue n'étaient pas convergents, mais il est dit que la tendance, la grande majorité, n'est-ce pas, des gens, optaient ou étaient favorables, n'est-ce pas, à la levée totale de cet état de siège.
C'est des consultations. Lorsque le chef de l'État, en sa qualité de garant de la République et du bon fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions, consulte une frange des populations, c'est pour en requérir les avis, avec possibilité qu'ils décident selon ces avis ou qu'ils décident autrement. Et le chef de l'État a trouvé qu'il y a lieu de prendre le juste milieu parce que les besoins se sont exprimés de l'une ou de l'autre manière et qu'il a proposé à la population ce qui est notamment attaché à ce qu'il a comme information parce qu'il est... Il les centralise pour l'ensemble du territoire national, pas un verre plein, pas un verre vide, mais à moitié. Et cela a conduit à cette décision, bien évidemment, après concertation ou consultation avec le gouvernement de la République, de dire qu'il levait de manière progressive.
Donc il a coupé la poire en deux.
Notre constitution ne l'interdisant pas.
Oui,
notre
professeur.
Notre constitution n'interdit pas.
Professeur. Si l'état de siège, n'est-ce pas, trouve son fondement dans la Constitution, sa réqualification a quel fondement juridique?
Non. D'abord, je ne dis pas qu'il ne trouve pas son fondement dans la Constitution. Il trouve bien son fondement dans la Constitution. Il trouve bien son fondement dans la Constitution. La Constitution l'institue. C'est une institution prévue par l'article 85 de notre Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, mais qui est dévolue au chef de l'État comme détenteur personnel de ce pouvoir, de proclamer, si vous lisez les termes de l'article 85, le chef de l'État proclame l'état de siège ou l'état d'urgence et en informe la nation par un message. Et c'est ce qu'il avait fait. Il l'a proclamé, il a informé la nation, après il a pris une ordonnance portant mesure d'application. Parce que il n'est pas dit que lorsque l'état de siège est décrété, que tout de suite, toutes les libertés des citoyens sont confisquées ou obstruées. Le chef de l'État peut en limiter certaines et en garder d'autres qu'il juge indispensables au bon fonctionnement de la société. Et ça, ça relève d'un pouvoir qui est un pouvoir personnel parce que c'est un pouvoir administratif, c'est pas un pouvoir qui se trouve lié.
Justement, donc, professeur.
Donc, on l'a appliqué à bon escient.
Justement, nous sommes à la veille des élections. Comment vous entrevoyez le déroulement de la campagne électorale? Comment vous entrevoyez la tenue de ces élections dans un contexte d'état de siège?
Je vous ai dit que j'ai aussi entendu les délais que l'état de siège devrait prendre, qui ne sont pas non plus constitutionnels, parce que la Constitution ne dit pas combien de temps l'état de siège devrait durer, devrait prendre. Nous avons connu des pays dans ce monde qui ont fait 22 ans sous état de siège, comme l'Égypte, qui venait à peine d'élever cet état particulier des choses, il y a quelques mois ou quelques jours ou quelques années, mais l'Égypte est restée 22 ans sous état de siège. Notre constitution ne délimite pas cette période. Et donc, lorsqu'il y a des interdits de la période électorale, vous ne trouverez pas dans notre constitution une disposition qui dit qu'on ne peut pas aller aux élections sous état de siège. Ça n'existe pas. Et nous sommes de ce droit positif qui postule que ce que la loi n'interdit pas formellement est autorisé.
Oui,
voilà
parce que vous allez...
je dis que les mesures progressives que le chef de l'État, avec lui, le gouvernement de la République seront en train de prendre en cette période précise, vont certainement dans le sens d'encadrer les événements majeurs qui profilent à l'horizon, et plus précisément les élections générales qui seront organisées au mois de décembre. Ces mesures n'ont pas pour vocation d'obstruer la bonne tenue des élections. Encore qu'il faille le noter, ce n'est pas la première fois que nous sommes allés aux élections dans ces conditions-là, et que beaucoup d'efforts avaient été fournis pour que ça change. Les informations que nous avons de l'Ituri en particulier sont celles qui révèlent que la situation s'est nettement améliorée. Je ne dis pas que tout est parfait maintenant, mais la situation s'est nettement améliorée. Parce que la crise qui se vit en Ituri, contrairement à la crise du Nord Kivu, elle est fondamentalement aussi liée à ces pratiques d'exploitation illicite de minerais et du bois, qui font que lorsque cela est jugulé, la paix s'ensuit. Donc,
professeur,
il est tout à fait normal que l'on suive ces mesures-là, qu'on les observe, et que s'il y a des observations et des reproches à formuler par rapport au fait que l'état de siège existe, que l'on n'attribue pas cela à une violation supposée ou alléguée de la Constitution, mais plutôt parfois à la soif de certains seigneurs des guerres et de certains contrebandiers qui, dans l'Ituri, au nord qui vous voyez, se sont honteusement enrichis sous le sang des Congolais. Et vous allez voir que c'est plus l'élite qui est échaudée par les mesures d'état de siège, les députés et autres comme le Vimbo Solaire demandaient de quitter les groupes armés. La population est parfaitement d'accord avec l'évolution des choses, plus particulièrement dans l'Ituri.
Cette population a été représentée à la table ronde à travers la société civile, professeur Tulumbay. Et la tendance était, n'est-ce pas, que l'on puisse élever totalement cet état de siège.
J'ai dit que nous avons tous des canaux de communication avec cette population.
Merci, professeur.
Nous la consultons aussi de l'une ou de l'autre manière. Nous sommes des chercheurs.
Merci. Vous allez aussi...
Comme enseignant, je suis un chercheur, j'ai réfléchi et je pose des questions. Sur cette question, je sais que la préoccupation majeure des hommes politiques habitués à bourrer les urnes, à tricher aux élections et à s'enrichir de minerais de sang, c'était celle de ne pas avoir une mesure qui surveillerait de près la situation dans cette province-là. C'est comme ça que vous allez voir qu'ils étaient premiers à être trop agités de ne pas vouloir cette mesure exister. Ce n'est pas le point de vue de notre population.
Voilà, vous allez justement répondre à la préoccupation des auditeurs, hein, de la population en fait, hein, et à travers ces auditeurs, et qui est en train de nous appeler depuis Dungu dans les Hauts Ouélé.
Abbé Sylvestre Zakala, province du Haut Ouélé, territoire de Dungu à Dungu. La population de l'Ituri et du Nord Kivu a trop souffert. Ou l'assouplissement de l'état de siège risque de semer une confusion dans l'administration locale, militaire mélangée au civil. Si le président agit ainsi, son acte risque d'être inconstitutionnel et il ne sera pas un homme qui prône l'état des droits. Le président Fatshi doit tenir compte de la table ronde où il a convoqué les notabilités de ces deux provinces et des recommandations y ont été faites. Il n'a qu'à tenir compte des avis de ces gens qui ont travaillé de façon unanime et de façon démocratique. Et ils n'ont pas perdu leur temps. Non, les pourparlers, les tables rondes dans mon pays risquent d'être tout simplement des subterfuges pour manger l'argent des pauvres contribuables. Qui vous est Ituri au besoin de la paix pour que la population fasse calmement ses occupations. Et puis, ça s'est développé. Il faut dire que nous en avons marre des concepts décrets comme requalification ou assouplissement ou allègement des mesures de l'état de siège dans ce pays.
Professeur Jacques-Claude Chilumbaï, vous allez répondre brièvement parce qu'on n'a plus assez de temps.
D'abord, à Dungu, à Rungu, à Mambasa, à Isiro et partout là, notre population a su savourer de près les réalisations de cette mesure exceptionnelle. Maintenant, la question de cohabitation entre autorités civiles et autorités militaires, je dis c'est le comble, c'est la particularité même de la nature des mesures d'ordre administratif, c'est ça la différence avec des situations légalement établies, j'ai dit légalement, c'est-à-dire par la loi dans son sens législatif du terme. Comment s'imaginerait-on qu'une mesure aussi draconienne prise dans l'intérêt de la stabilité du pays, avec tout ce qu'elle a eu comme implication, puisse être levée d'un jour au lendemain? Quelles que soient les conditions, la levée de l'état de siège ne pouvait être que progressive, parce que ce n'est pas en un jour qu'on va dire autorité civile, venez faire mise de prise avec les autorités militaires, c'est fini l'état de siège, ça va être imbroglio. La levée ne pouvait être que progressive. Ils peuvent vérifier. Des pays, comme j'en ai donné un exemple ici, comme l'Égypte, qui ont passé 22 ans sous état de siège. La levée de l'état de siège a été progressive. Si elle a été décrétée, mais l'effectivité s'est faite de manière progressive sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des gestions administratives et tant d'autres. Ce n'est donc pas... J'ai dit que le problème, c'est l'élite. C'est ces gens qui ont utilisé les populations pour leur enrichissement. Ces gens qui sont mal à l'aise parce qu'ils ne trouvaient pas comment ils allaient bourrer les urnes avec des militaires à la tête de ces entités-là. Ils étaient très mal à l'aise à l'approche.
Merci, professeur.
Il n'y a que ça, pas autre chose.
Oui, mais vous venez quand même de répondre à la préoccupation d'un auditeur qui fait partie, n'est-ce pas, de cette population. Et on va vous redonner la parole. Et honorable Jackson Aoussé, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, si je ne m'abuse, hein, monsieur Befonga.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. La décision du chef de l'État sur la levée partielle ou la requalification de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et de Nord-Kivu n'a pas un fondement constitutionnel et risque, à mon avis, de créer une confusion au niveau de l'administration locale, d'autant plus que le président n'a pas pris soin de préciser la suite des événements sur ce que sera la gestion de ces deux provinces qui sont conduites jusqu'à présent par les militaires. Maintenant, l'opinion se demande où serait l'importance ou l'apport de cette mesure exceptionnelle, quand bien même que les groupes armés qui étaient censés être éradiqués demeurent toujours actifs et continuent à endeuiller les familles de ces deux provinces, au lieu que le président de la République puisse requalifier l'état de siège, il devrait tout simplement le supprimer, car cette mesure exceptionnelle n'a pas atteint ses objectifs et les résultats attendus par la population.
Jackson Aoussé.
Merci beaucoup, Guy Maté. Bon, je ne sais pas si j'aurai la même grâce que le professeur Chilumbaï pour que j'ai aussi du temps. Parce que
allez-y, honorable. Allez-y.
J'ai écouté des choses extrêmement graves. On ne doit pas laisser passer comme ça l'opinion. L'élite de la province de l'Ituri et la population de la province de l'Ituri et de Nord Kivu mérite du respect d'autres populations, mérite du respect d'autres élites. Et s'il n'y a pas de respect, là nous n'allons pas cautionner ça. Dire que nous sommes en train de demander à lever de l'état de siège pour bourrer là les urnes, c'est extrêmement grave. Ce ne sont pas les politiciens ou l'élite de l'Ituri et de Nord Kivu qui organisent les élections. Nous ne sommes pas dans la CENI, nous sommes des compétiteurs. Comment nous allons bourrer les urnes à partir du moment où ce n'est pas nous qui organisons les élections, que nous sommes dans l'état de siège, que nous ne sommes pas dans l'état de siège? Ça, c'est très grave et moi je pense que le professeur va pouvoir retirer cela parce que ça n'honore pas. Ça n'honore pas sa qualité de professeur et nous, élite de l'Ituri et de Nord Kivu, on ne peut pas accepter ça. Le professeur parle de la sécurité. Quelqu'un peut quitter Aru jusqu'à Kisangani, même la nuit, je ne sais pas moi le jour, monsieur le professeur. Est-ce que c'est normal ou bien autant téléphoner par téléphone cette réalité-là? Est-ce que tu es capable de quitter Bunia pour aller à Mahagi? Est-ce que vous êtes capable de quitter Komanda pour arriver à Mambasa? C'est extrêmement très grave. La population de l'Ituri qui vous écoute parler des choses comme ça, n'est pas d'accord avec vous. Vous parlez de recettes, que les recettes en Ituri et en Nord-Kivu a triplé. Monsieur le professeur, est-ce que vous savez que les députés provinciaux de l'Ituri et de Nord-Kivu totalisent aujourd'hui 29 mois? Vous êtes député provincial, monsieur le professeur. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous aviez vu que les députés provinciaux ont fait les sit-ins devant la primature à la présidence, tout simplement parce que leurs salaires ne sont pas donnés. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Alors que moi, je pense qu'ici, ça, ce sont des spéculations. L'état de siège a été proclamé. C'était une très bonne chose. C'était constitutionnel. Tous, on a applaudi, tous, on a appuyé, effectivement, parce que les menaces pesaient sur les entités des provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ça, c'est évident et personne ne peut le contredire. Au jour d'aujourd'hui, le tableau qui existe, l'état de siège n'a pas résolu le problème sécuritaire de l'Ituri et de Nord-Kivu. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours eu des mesures exceptionnelles qui peuvent réussir et qui ne peuvent pas réussir. Moi, je ne pense pas qu'ici, le débat, c'est entre les uns et contre les autres. Non, c'est un débat républicain. Nous devons avancer. On a géré Ituri et Nord-Kivu pendant 3 mandats, 3 ans. Sans budget. Ce n'est pas concevable. Alors, moi, je pense que nous sommes d'accord, nous tous, que la requalification de l'état de siège n'en est pas un. Étant donné cela, soit on maintient l'état de siège, et cela contre la demande pressante de la population, soit on l'élève, et cela est à ce niveau-là, on sera en conformité avec la réalité sur le terrain et avec la demande de la population sur le terrain. C'est plus simple que cela. Alors moi, je pense que, comment est-ce qu'on peut dire, Guimaté, quelle est l'entité qu'on a mise sous état de siège? Je pense ici l'entité qu'on a mise sous état de siège, ce sont les deux provinces. Ce sont les deux provinces qui sont sous état de siège. Comment ça va s'expliquer? La province soit sous état de siège, mais qu'une entité à l'intérieur de cette province ne soit pas sous état de siège. Soyons donc sérieux. Les pays nous appartiennent tous. Nous soyons les vols au niveau de, nous sommes en train de parler de la République. Nous sommes en train de parler du président de la République. Le président de la République est une institution, est une première institution.
Merci.
Donc, moi, je pense qu'ici, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable que la province de l'Ituri soit sous état de siège, qu'un territoire ou une commune puisse sortir dans ce cadre-là d'état de siège. Là, je ne sais pas.
On a compris. On a compris. Et professeur Mouessi, Augustin Mouessi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur Befonga.
Je m'appelle Jean Befonga depuis Sangui, province de la Tchoup. Je pense que les chefs de l'État et son gouvernement ont suffisamment de données pour justifier cette levée partielle ou la requalification de l'état de siège dans ces deux provinces deux ans après. Sinon, il est inconcevable de faire maintenir et reconduire l'état de siège plus de 2 ans, non seulement à cause de son illégalité, mais aussi et surtout à cause de ses mesures exceptionnelles sur la vie des populations. Moi, je réalise que peu importe les résultats que cet état de siège a pu atteindre jusqu'ici, il n'est plus nécessaire de le maintenir ou de le qualifier. L'exceptionnel ne peut pas demeurer comme l'ordinaire.
Oui, professeur Augustin Mouessi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. En fait, de manière globale, à moins qu'on ne fasse une évaluation taillée sur mesure, lorsqu'on pose la question à beaucoup de citoyens qui vivent ici au Nord Kivu, mais aussi en Ituri, en tout cas sur un échantillon de 100 personnes, facilement, 70 personnes diraient qu'il faudrait que l'état de siège soit levé. Et d'ailleurs, les manifestations qu'on a connues à Butembo, à Beni, à Goma, même ailleurs, c'était pour effectivement réclamer la levée de l'état de siège. Et donc, objectivement parlant, et il se pose un problème, la population aurait bien voulu que l'état de siège soit levé, et c'est ce qui a été, cette demande a été reformulée lors justement de la table ronde. Et alors, j'ai dû comprendre que un intervenant faisait allusion à des pays qui ont connu une prolongation de l'état de siège et même qui ont connu une sortie progressive de la situation de l'état de siège. Moi, je dirais que toute comparaison n'est pas raison en fait. Certes, comme l'a dit l'auditeur, le chef de l'État pourrait avoir des données qui l'auraient poussé, n'est-ce pas, à prendre cette mesure d'allègement progressif de cette mesure. Mais le problème, c'est que aussi, d'un côté, on ne doit pas oublier que pendant que quand l'état de siège a été proclamé, il y a eu quand même un problème au niveau de l'absence d'une loi portant mesure d'application de l'état de siège. Et à ce moment-là, ça donnait justement au chef de l'État de prendre une ordonnance pour essayer de pallier ces vides. Et ça lui a, l'absence de cette loi, à mon avis, a toujours ouvert une sorte de boulevard au chef de l'État pour lui permettre soit de maintenir l'état de siège, soit d'alléger l'état de siège comme il est en train de le faire. Mais il ne faut pas oublier aussi que les députés ont quand même pendant longtemps aussi voté à faveur justement de la prorogation de l'état de siège. Et donc c'est autant de problèmes qui ont fait qu'on en arrive à cette situation. Et là maintenant on peut se poser la question, savoir le degré de la capacité réceptive en fait du pouvoir, puisque c'est vrai, lorsqu'on a proclamé l'état de siège, c'était une demande générale qui a été d'ailleurs saluée parce que la population du Nord Kivu et de l'Ituri s'attendait à des résultats escomptés. Mais aujourd'hui, il faut dire que le bilan semble quand même un peu mitigé par rapport à ce qu'on attendait de l'état de siège. Et là, je me pose également la question de savoir si, en levant progressivement l'état de siège, la question de l'enchevêtrement des commandements qui a toujours été dénoncé, qui fait à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une zone, n'est-ce pas, de défense, qui est gouverneur militaire, et ainsi de suite. Si cette question-là sera réglée par, justement, cette levée progressive.
Merci.
C'est vrai, ça va permettre à la population, aux compétiteurs de pouvoir s'exprimer, mais il y a un certain nombre de défis qui vont demeurer, en fait.
Nous sommes
à l'état de siège tout au long.
Il y a beaucoup de défis, oui, comme vous le dites. Nous sommes à la fin de l'émission, donc on va commencer à conclure. Et Augustin Mouessi, je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques à l'université de Goma, Inigoma, en sigle, et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Parce que vous estimez que la tendance était à la levée totale, n'est-ce pas, de cet état de siège. Et à votre avis, ce serait quoi l'alternative à l'état de siège?
Bon, l'alternative, il y a plusieurs régimes d'exception. On aurait pu faire peut-être passer de l'état de siège à l'état d'urgence, pourquoi pas? Et pourquoi pas complètement lever, n'est-ce pas, l'état de siège complètement? Et alors donner, en fait, essayer de repenser la chaîne des commandements pour qu'effectivement ceux-là qui doivent mener les opérations les mènent sans beaucoup de chevauchement, comme ce qu'on a pu constater. Ça aurait dû être parmi les alternatives, mais hélas, le chef de l'État a décidé de la levée progressive, et c'est là que je dis, je doute que les défis, les problèmes qu'on a soulignés ne puissent pas continuer à être enregistrés, et que, puisqu'en fait, les raisons de la sécurité pour lesquelles on avait instauré, n'est-ce pas, les raisons qui ont présidé à ce qu'on instaure l'état de siège, c'était notamment les menaces sécuritaires, et ces menaces-là, effectivement, ont continué pendant l'état de siège.
Merci, on a compris.
Et on peut se demander si la levée progressive sera vraiment une réponse pour essayer de pallier justement ces différents problèmes, ces différents défis.
Merci, professeur. Merci, professeur Jean-Claude Chilumbay, professeur des droits. Vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Et vous allez aussi conclure. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que cette levée partielle de l'état des sièges contribue effectivement à la sécurisation de la population de l'Ituri et du Nord Kivu?
Les mesures administratives vont continuer d'être prises progressivement pour, bien évidemment, arriver à la levée définitive de cet état de siège. C'est une réalité avec laquelle notre population a vécu pendant 2 ans et que je ne trouverai aucune logique d'une levée brutale et incontrôlée d'une telle mesure. C'est pourquoi je pense qu'il faille continuer de faire confiance en cet effort, en ces efforts du président de la République, y compris ce qui se déroule en ce moment précis dans le Nord Kivu, pour que cette guerre se termine. Je ne vois pas d'intérêt particulier que le chef de l'État aurait à instaurer un état de siège, ça ne l'avantagerait personnellement pas. Et s'il a pris cette mesure et qu'il la maintient d'une certaine manière, c'est justement pour l'intérêt de la population. C'est ce qui est en train d'être fait et que notre population devrait développer un peu plus de patience pour un cheminement ensemble.
Merci Jackson Haussier, vous êtes député national élu du territoire du Rumu, province de l'Ituri. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, parce que vous estimez que l'état de siège n'a pas, n'est-ce pas, aidé la RDC à pouvoir amener la paix dans la partie est du pays. Qu'est-ce que vous proposerez, quelles sont les recommandations que vous feriez, n'est-ce pas, à l'endroit du gouvernement pour que la paix puisse effectivement revenir dans cette partie du pays?
La paix ou la sécurité, c'est une matière exceptionnelle pour le gouvernement central. Moi, je pense qu'ici, ce n'est pas parce qu'une province n'est pas sous état de siège que cette province-là est exposée. La mission ou les missions des militaires n'est pas résumée à l'état de siège. Avec ou sans état de siège, l'armée est censée protéger, combattre, protéger les limites ou la frontière du pays. Donc, moi, je pense ici la demande est simple, qu'on lève l'état de siège, qu'on retourne les institutions civiles et que les militaires continuent à combattre. Parce qu'ils vont combattre avec ou sans état de siège. On ne doit pas mettre dans la tête de l'armée qu'ils ne peuvent faire que l'effort à partir du moment où l'état de siège est proclamé. L'état de siège n'a rien à voir avec la mission permanente régulière de l'armée. On lève l'état de siège, les institutions provinciales rentrent, l'armée continue avec la mission qui lui est dévolue par la Constitution.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Jean-Claude Chilumbay, à Jackson House et à Augustin Mouessi d'avoir accepté d'y participer. Merci aussi à Pierre Diassino qui était à la technique avec la participation d'Enimi Kindou et à Dona Madimba qui l'a réalisé. Et pour les lives, nous avons Clément Chimanga et Jonathan Fouanani et Death Vita sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.